France Inter. Chères auditrices, chers auditeurs, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Janvier est terminé. Ah ouais, c'était long, il était long le mois de janvier. Heureusement, il y a eu de l'humour sur France Inter, ça adoucit tout. Et d'ailleurs, ça tombe hyper bien que vous soyez derrière votre transistor, car ce n'est pas une émission de radio que j'ai préparée pour vous, mais une surboom, une surprise partie, un bal du meilleur de l'humour de la chaîne. Ouais, vu comment je parle, franchement, il était tellement long ce mois de janvier, j'ai pris 40 ans dans la tronche. Bon, en tout cas, allez les jeunes, on y va. Dans cette émission, Tristan Lopin tente de pimenter sa vie de couple.
J'aimerais tellement être un peu craint parfois, avoir du pouvoir. Mais je ne suis le maître de personne. En revanche, je suis grave la pute de Nikos Aliagas.
Tout le monde l'est. Mon stagiaire de 3e s'est baladé dans la radio depuis lundi et son coup de cœur de la semaine, c'est Camille Lavabre, ou plutôt la nouvelle attachée culturelle des États-Unis à Paris.
Donc moi je m'appelle Brittany McMurphy, j'ai 1m75 et je suis Sagittaire.
Nous ferons un petit détour par 1995 à la rencontre du Jules d'Isabelle Mergault et ses mots d'amour.
Qu'est-ce qu'il me disait aussi? Attendez. Ah oui, il me disait... Oh, la pâleur de tes poumons n'ont d'égal que la longueur de ton côlon.
C'est élégant.
Et puis nous ferons plus ample connaissance avec un chroniqueur régulier de la chaîne, Harold Barbé, que vous écoutez depuis cette année dans Zoom Zoom Zen, sera mon invité dans quelques minutes. On va lui faire imaginer un hôtel à son image et puis on lui fera son oraison. Vous êtes sur France Inter, vous écoutez l'humour d'Inter, l'hebdo. Bienvenue chez vous.
L'humour d'Inter, l'hebdo.
Ceci est une émission de radio.
Cette semaine, l'actualité a été marquée par des inondations en Bretagne, des hélicoptères qui se crachent contre des avions ou des échanges d'otages. Mais moi, je pense que l'info numéro une à retenir, c'est bien que les tuches reviennent. Et ça, ça a soulagé Mathieu Noël, quelque peu usé par les invités de la matinale.
Je vous rappelle que depuis quelques semaines, vous m'obligez à faire des blagues devant des gens connus pour avoir le rire facile, comme Mathilde Panot, l'ambassadeur d'Israël, la maman d'un otage en Iran, ou encore la procureure générale du parquet de Paris. Hier, des gens qui se dérident assez facilement, généralement un petit tir sur mon doigt, c'est parti. Alors évidemment, j'en ai bavé, des invités pareils, je pense que même clown en oncologie pédiatrique, tu pars de moins loin. Alors là, Isabelle Nanty, voilà, c'est la fête. J'adore Isabelle, j'adore les tuches, et j'avais d'ailleurs un projet de spin-off pas mal, où ça serait l'inverse, non pas des pauvres qui deviennent riches, mais des riches qui deviennent pauvres. C'est libre de droit, puisque c'est aussi l'histoire de la France. Ça se passerait chez Dominique Seux à Clamart. Ça s'appellerait les Suches. Ça nage dans le pognon jusqu'au jour où, paf, le NFP gagne enfin une élection. Enfin, je veux dire, gagne une élection, et cette fois, on tient compte du résultat. Rien, une dimension science-fiction au scénario, m'en voulez pas, je suis un rêveur. Donc le NFP passe, là, purge à Radio France, Dominique perd son fauteuil d'éditorialiste star sur Inster et surtout a présenté des flash hippiques sur France Bleu, qui s'appelle même plus France Bleu d'ailleurs, mais ici. En deux mois, il doit vendre l'argenterie, la gentilhommière dans le perche et même un rein sur le dark web. Bref, pléthore de situations cocasses. Hein. Je vois même une scène où Léa Salamé, elle aussi acculée financièrement, se retrouve obligée de faire ses courses chez Action. Le cliffhanger est terminé dans le moment où elle agite les clés par la fenêtre de la Aston Martin avant de réaliser qu'il n'y a pas de voiturier chez Action. Mésaventure qui débouchera sur une des meilleures répliques du film.
Les Français nous ont étonné.
Les Suches en salle quand j'aurai trouvé les financements. Non, heureusement que c'est vous l'invité ce matin, Isabelle, ça m'évite de parler de l'actu. Parce qu'en ce moment, si on est patriote, et je sais que c'est le cas de Patrick qui ne conclut jamais un coït sans s'exclamer
« Vive la France !»
C'est comme ça que ça se passe chez les coïts. Si on est patriote, on n'a pas le cœur à rire, car la France en ce moment, sur la scène internationale, elle n'impose pas des masses. D'un côté, t'as quand même Donald Trump qui explique aux Colombiens qui vont fermer leur gueule et reprendre leurs expulsés, que les migrants, ben on va les foutre à Guantanamo, qui dit à Google Maps que le golfe du Mexique s'appelle désormais le golfe d'Amérique parce qu'il a envie, que le Canada, ça fera un joli cadeau d'anniversaire pour Mélania, ça la changera des sacs. Tiens, mettez-moi aussi le Groenland tant que vous y êtes. Le mec redessine le monde. De l'autre côté, t'as Emmanuel Macron. Et sinon, moi je me disais, on pourrait peut-être déplacer la Joconde dans une autre salle, avec une petite entrée indépendante, tu vois, je verrais bien, pour apporter une touche de verdure, égayer un peu, un yucca peut-être. Merci Manu. Voilà, quant à l'autre actu, c'était Bérard Arnault qui chouine dans Le Parisien, qu'il est trop taxé, sujet sur lequel je ne peux évidemment pas aller, par rapport à Dominique, qui dîne souvent chez les Arnault, très sympa d'ailleurs, des gens très simples, vous savez comment ça se passe Isabelle, un dîner chez Bérard Arnault, ben, du fric, mais vous inquiétez pas les enfants, il y en aura pour tout le monde.
mais qu'il est loyal avec ses collègues, ce Mathieu Noël. Mathieu Noël, vous le savez, il est un petit peu comme les drapeaux bretons, il est partout. Il est dans la matinale du lundi au jeudi à 7h55 et puis du lundi au vendredi de 16h à 18h pour son émission Zoom Zoom Zen. Et d'ailleurs, un de ses chroniqueurs vient d'entrer dans le studio. Crâne rasé, barbe exceptionnelle, yeux malicieux et kilt malicieux aussi, c'est Harold Barbet. Mais c'est qui, Harold Barbet ? On dirait quoi sur lui si on devait faire son oraison funèbre ? L'humoriste Harold Barbet est né en 1983 en Normandie, où déjà tout petit, il brûle les planches dans un rôle de composition. Oui, c'est un renard que vous venez d'entendre. Il a incarné un renard. Je suis certaine qu'il a prononcé cette réplique vêtu d'une simple cape en guise de costume. Il grandit alors et se découvre deux passions. Le football, qu'il commente régulièrement au stade de Caen, et la musique classique. Autant pour moi, en fait, c'est pas le classique, c'est surtout il découvre le métal, dont il est un grand grand fan. Il deviendra d'ailleurs le premier humoriste à faire le Hellfest en 2024, un rêve pour lui. Il se lance alors dans le spectacle vivant, inspiré par les comédies de Jim Carrey qui l'adule. Splendid! Mais les comédies club au funérarium, il n'y a qu'un pas. Et il faut bien payer les factures. Harold Barbet devient donc humoriste et croque-mort à mi-temps. Un micro, une audience, mort ou mort de rire finalement, c'est presque la même chose. Repéré par Blanche Gardin, il est invité à faire ses premières parties partout en France. Depuis, il joue son nouveau spectacle, Relax Max, et il a rejoint l'équipe de Zoom Zoom Zen. Il est mon invité aujourd'hui. Bonjour Harold Barbet.
Bonjour Marine.
Merci. Et donc tu es bien vivant finalement.
Je suis bien vivant, bien présent et ravi d'être là avec toi.
Bah merci parce que vraiment j'aurais eu très très peur que tu ne sois pas vivant finalement. Merci d'être là. Tu te rappelles de ta première chronique à France Inter ?
Ouais, je m'en rappelle bien. C'était sur les emojis.
Ok.
Donc, et en fait, je devais parler des emojis. Alors, c'est marrant ce quand tu.
Franchement, tu t'en sors bien parce que dans Zoom Zoom Zen, tu peux vite te retrouver avec la Technopolis ou des trucs vraiment hyper durs. Et là,
ouais.
Toi.
Ouais, non, mais pour une première, j'ai eu de la chance. Parce qu'après, j'ai eu le quiet hiring, okay. Le sleep divorce. Enfin, j'ai eu quand même des sujets un peu plus compliqués que les emojis. Puis bon, bah, les emojis, en vrai, tu parles de la courgette, du petit smiley qui a un chapeau de cow-boy. Et puis, t'as un peu fait le tour du sujet.
Et puis, c'était fastoche.
Mais il y avait quand même la pression. Puis, tu sais, c'est France Inter. C'est la première sur France Inter. C'est ton premier baiser radiophonique, presque.
Alors, ça, c'est bien. T'as tourné dans le bon sens?
J'ai tourné dans le bon sens, je crois. En tout cas, Mathieu Noël était très content. Donc,
de ce premier baiser radiophonique. Voilà. J'adore cette idée. Écoute, dans quelques instants, on va écouter une de tes chroniques. Mais avant ça, moi, j'ai envie d'apprendre un petit peu à mieux te connaître. Et puis surtout, de percer à jour tes contradictions. Mmh. Car je suis sûre que tu en es pétri.
Probablement.
Probablement. Je vais te donner des phrases. Elles se terminent par un mais et tu les complètes.
Ok.
Ok. Tout le monde n'écoute pas de métal, mais...
Tout le monde n'écoute pas de métal, mais tout le monde devrait essayer au moins une fois dans sa vie.
Bien
parce
sûr.
Que, après tout, c'est toujours intéressant de s'ouvrir à la culture, à une culture qui n'est pas la sienne. Et puis en plus, je pense que écouter du métal, c'est quand même une excuse facile pour pouvoir décapsuler une bière.
C'est sûr que tu te dis, moi, tiens, en écoutant ce petit Beethoven,
exactement.
Je me décapsulerais
bien une Grimbergen, voilà, avec modération.
C'est plus rare, c'est plus rare.
Oui.
Les sorties scolaires, tu dirais pas que c'est l'enfer, mais...
Non, parce que, en fait, la sortie scolaire en elle-même, c'est pas l'enfer, mais finir d'éduquer les gamins cassos des autres, certains, ça par contre, ça ressemble beaucoup à l'enfer.
Ouais, ça c'est vrai. Personne n'aime la mort, mais...
Personne n'aime la mort, c'est vrai, mais en revanche, la mort aime tout le monde. Donc pourquoi ne finalement pas l'embrasser calmement dès qu'elle se présente à toi ? Pas vraiment le choix.
T'avais peur de la mort avant d'être croque-mort ?
Ah ouais, complètement. Ouais.
Et aujourd'hui, t'es beaucoup plus serein par rapport à ça ?
Absolument. Moi, la pensée de la vision cadavérique de voir quelqu'un de décédé m'effrayait au plus haut point. Et les pompes funèbres ont totalement enlevé ça.
C'est... Ça, c'est quand même bien, parce que franchement, c'est quand même assez terrifiant. Oui. La Normandie, en parlant de mort, la Normandie est une région magnifique, mais...
C'est une région magnifique, voisine de la tienne, mais...
Voire ennemie de la mienne.
Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais bon, non, c'est une région magnifique, mais peut-être que Kylian Mbappé n'aurait pas dû racheter le Stade Malherbe de Caen, si c'est pour qu'on soit dernier du championnat. Et sauve-nous, Kylian, c'est vraiment un message que
c'est
j'ai
un
envie
message
de t'envoyer.
Que je lui passe,
oui, sors le chéquier.
Il faut qu'il remette un peu de thunasse.
Il faut que tu remettes. Tu nous as sauvés, c'est bien. Maintenant, il faut des nouveaux joueurs. Il faut que tu fasses ça bien, même pour ton image, c'est important, Kylian. Je t'en supplie.
Magnifique. Parce que on peut rappeler aussi que tu as été commentateur quand même sportif pendant 8 ans.
Absolument.
Au Stade Malherbe, c'est ça?
Au Stade Malherbe de Caen.
Juste au Stade Malherbe.
Non, j'ai fait des piges après dans d'autres clubs, mais essentiellement le Stade Malherbe. Malherbe qui était un illustre poète cannais. Il n'y a que le Stade Malherbe qui a un nom de poète dans le football, tu sais.
Non, je ne savais pas.
France Inter.
On apprend voilà. Au quotidien. Travail dans les pompes funèbres. On pourrait croire que c'est triste, mais...
Mais dire au revoir, c'est toujours un peu triste.
C'est vrai.
Mais c'est pas pour ça, c'est pas parce que la fête est finie qu'on ne s'est pas amusé.
Tu ne fais pas d'humour noir, mais...
Je ne fais pas d'humour noir, mais parfois c'est un peu frustrant que les gens pensent que je fais continuellement de l'humour noir, alors que c'est pas comme ça.
Mais est-ce que c'est pas parce que tu t'habilles en noir parce que t'es un métalleux ?
Peut-être. Il y a ça, il y a l'aspect mortuaire aussi, alors que pas du tout. C'est plus de l'humour trash, je dirais, mais bienveillant,
alors, attends,
familial.
Je peux te poser une question que j'ai toujours rêvé de poser à un métalleux.
Vas-y.
Combien de t-shirts tu as de métal ?
Mais déjà, on me les offre maintenant, les groupes me l'offrent. Nous, dans notre penderie avec mon épouse, d'habitude, le cliché, ça serait que les vêtements de la femme prennent toute la place. Moi, t'as que des t-shirts de métal. T'en as partout, je sais pas, je dois en avoir 250 ou 300. Et parfois, ma femme me demande, elle me dit, mais t'as vraiment besoin de tous ces t-shirts ? Je dis, mais oui, oui, même si je ne les mets qu'une
seule
fois.
Et c'est un truc de collection ?
Ouais. Ouais,
genre, et c'est quoi le t-shirt absolu, le truc incroyable que t'as ? Ta pièce de collection ?
Ma pièce de collection,
ouais.
Alors c'est un hoodie, donc ça va un peu avec un t-shirt, c'est un hoodie de Korn que le groupe Korn et Gojira m'ont offert en octobre dernier pour les 30 ans de Korn quand je suis allé les voir au Colorado.
Tu le mets pas, il est dans un cadre.
Je le mets pas. Je le mets, tu vois, j'avais failli le mettre hier, mais je me suis dit, non, je le mets à la maison, tranquille. Il est magnifique. Et c'est marqué, c'est une édition limitée, c'est marqué Korn 30 Years.
Wow.
Incroyable.
Harold, t'as commenté pendant 8 ans les matchs au Stade de Caen, on l'a dit. Tu pourrais lancer la chanson qui arrive, mais vraiment à ta manière, façon Ligue 2.
Ok, alors façon Ligue 2, premier du championnat, alors pas à la façon Stade Malherbe.
Pas cette année, quoi.
Ok, d'accord. Allez, c'est parti. L'équipe de la chanson La Raille de partie 2 vient d'entrer sur le terrain avec à sa tête le capitaine Duke Mob. Il est accompagné aujourd'hui du numéro 10 Gonzalez, Jean Jass à la défense, Juliette Armanet dans les buts. Tedax Max est à l'échauffement. On va donner le coup d'envoi de cette rencontre exceptionnelle. Qui ne saute pas n'est pas français. Terre. Qui ne saute pas n'est pas français. Terre.
J'ai reçu un message de Zeblaski. Il me parlait de la cassette 2. Je croyais qu'il voulait du piano, mais enfin, il a voulu un couplet.
Coucou, en noir et blanc comme panda, polo babe couleur Fanta. Je chausse 44, je fais des grands pas, cardigan cachemire comme grand papa. Sur un fond vert couleur ganja, je suis là où on m'attend pas. Je suis arrivé dans le rap comme un attentat sur Grunt numéro 63. Succès du scandale, comme les sucettes de France Gall. J'suis perdu dans mes fantasmes, je m'incruste dans l'instrumental. J'aime quelques rappeurs, mais pas tant que ça, je les comprends pas. La moitié rappe trop vite, l'autre moitié est toxique, comme Bertrand Cantat. Quant à moi, ce n'est pas mon genre, j'suis pas faux modeste, j'suis faux arrogant. En pantoufle, au restaurant, je me mouche dans un foulard Saint-Laurent. Je dis Gonzalez, je baise l'alphabet, ma musique est belle, mais c'est moi la bête. Tu vas prendre une claque comme des castagnettes, c'est la deuxième assiette.
Dis que j'en de la cassette. Fuck leur monde, c'est le anthème. Pas notre place, jamais dans le thème. Shadowban privé d'antenne, trop explicite comme tandem. Je voulais gagner tandem, obligé de resquiller. Mon gars a le plan au cas où tu voudrais skier. Elle veut ci, elle veut ça. Je lui dis que tout est faisable. Allons danser comme au bal de fin d'année. La beuh est bonne, le temps est plutôt printanier. Je prends son love, mais jamais je vais lui rendre. Dans ma tête, la situation est délirante. Je me déplace si tu respectes mes honoraires. Je reconnais le bruit de l'alias, j'ai une bonne oreille. T'es une merde humaine et tu l'as prouvé. Une balle perdue va finir par te trouver. Le complot sur vêtements Nike, le complet. Bientôt faut payer le couplet. Ma licence pour la compète. Que je me préserve d'une poupette. D'une conquête qui mènera à ma perte. Remplir les poches de ma jaquette, c'est le but. On pourra pas tous sortir de la grotte. Fume la verdure qui fait titiller la glotte. Ils sont tu bras comme la carrière de la pioche. Au sommet, tu peux que descendre. Demande à tous ceux qui l'approchent, mec. Grave tes premiers choix, filtrer plusieurs fois. Et le cheese need, faut enchaîner les hits comme l'équipe du unit. Sortir du lot, faire bouger les minettes au gilo. Gardien de la paix aura seulement que nos peines s'alourdiront. Ils sont minables. Fais-moi un virement, je veux pas être viral. Choisis bien ta place car l'accueil dépendra du virage. Rare et précieux comme les bons numéros du tirage. Autant bouteiller, tu me verras plus quand mon plan aboutira.
La ride, partie 2 sur France Inter.
Marine Baousson, l'humour d'Inter, l'hebdo.
Pour le moment, nous n'avons eu qu'un seul Premier ministre en 2025. François Bayrou tient le coup. C'est un exploit incroyable. À côté, les gens qui finissent un Vendée Globe, c'est des petits joueurs, car personne ne connaît la houle et ne se prend des vents aussi forts qu'un Premier ministre français. Et puis bien sûr, il y a ce risque terrible de la submersion. La droite et l'extrême droite menacent de censurer le gouvernement Bayrou. Mon invité Harold Barbet l'avait pressenti dans sa chronique le 14 janvier dernier.
Nous sommes en 2025 et une question se pose. Quelle espèce considérée comme menacée survivra à l'autre ? La loutre géante d'Amérique du Sud ou le Premier ministre français ? De sexe majoritairement masculin, le Premier ministre français a connu une spectaculaire réduction de son espérance de vie depuis 2024. Le mammifère bipède s'est peu à peu mué en une sorte de larve rampante luttant pour sa survie. Bienvenue dans le destin tragique du Premier ministre français. D'une taille moyenne d'1m80, il est doté d'une puissante queue difficilement contrôlable. Là, je parle de la loutre d'Amérique du Sud, hein, pas d'un ministre. Tu nous manques, Benjamin Griveaux. C'était donc aujourd'hui le discours de politique générale de François Bayrou. Et écrire un discours, c'est pas si simple que ça. Ça me rappelle la fois où des amis de ma femme, que je connaissais absolument pas, m'ont demandé de prononcer un discours à leur mariage pour la seule raison que j'étais la seule personne qui avait plus ou moins l'habitude. Mais que ça soit à l'Assemblée nationale ou à la salle des fêtes de Val-Frambert dans l'Orne, un discours, ça se prépare en fonction des gens que tu as en face de toi. Là, j'ai vite compris que, vu le nombre de beaufs présents, j'allais devoir balancer du hachik-hachik-hachik. Même si ça me dégoûte, mais pas le choix. Un discours qui se veut rassembleur doit concerner tout le monde. Donc, du hachik-hachik-hachik pour les beaufs, un PowerPoint de ringard sur les mariés pour la famille, une gamine à moitié consanguine qui chante du Céline Dion, et après, tu lances la chenille. Un discours réussi, c'est un discours qui fait plaisir à tout le monde. C'est la règle de base. Quelle est la personne la plus appréciée dans un gangbang ? Celle qui a pris le temps de mettre tout le monde à l'aise. Une petite noisette de gel par ici, une petite tape sur les fesses par là. T'as plus de batterie dans ton plug anal, Didier ? T'inquiète, je te le mets rechargé. C'est la même logique, faire plaisir au plus grand nombre. L'un des enjeux principaux du discours d'aujourd'hui, c'était l'âge de départ à la retraite.
Ah, oui, oui.
Et les socialistes réclamaient un geste fort en leur direction. Étonnant, ça fait 6 mois qu'on leur adresse des doigts d'honneur. Moi, ça me semblait assez fort comme geste pourtant. Jamais content. La suspension de la réforme des retraites pour François, c'est l'équivalent de mon hachik hachik hachik. En bouche, ça n'a pas très bon goût. Et le budget, depuis des semaines, on entend « il n'y a pas de budget, il n'y a pas de budget ». On dirait Cyril Lacarrière quand je lui demande si je peux avoir un petit verre d'eau pendant la chronique, s'il te plaît. « Il n'y a pas de budget, crève, sale chauve !» Alors, il n'était pas super à l'aise au début, le François. Et c'est normal qu'il soit pas super à l'aise. C'est pas forcément lui qu'on attendait à ce poste. Bayrou, c'est le suppléant de la prof d'art plastique qui s'est fait une entorse au ski. Tu sais pas si tu l'auras encore dans 3 semaines, donc tu t'en fous un peu, ce qu'il raconte. Mais là, il m'a fait de la peine. Chez François, il y a un côté Beethoven. Le chien, pas le compositeur. Un peu pato, mais pas méchant. Et avant son discours, il était en panique. Oh là là, mais qu'est-ce que je fais ici ? Si seulement je pouvais échanger ma place avec une loutre géante d'Amérique du Sud. Là-bas, il y en a une ! Ah non, c'est Gérard Larcher.
Pas Gérard.
J'étais à l'Assemblée pour préparer ma chronique et je le voyais, il y a un truc qui n'allait pas dans son regard. Du doute et beaucoup de souffrance. Et là, direct, ça a fait tilt.
Les gars, j'ai déjà vu ce regard dans les yeux d'un écureuil quand j'étais en vacances dans le Wisconsin. Ça, c'est une torsion testiculaire. Laisse-moi faire, je vais te les remettre, François.
Tu ne me fais pas les poches.
Mais c'est pour t'aider, François. Tu te sens pas bien, là, c'est pas toi. Un coup à droite, un coup à gauche, c'est pas bon pour tes balls. Faut te ressentir, François. Alors, est-ce que Bayrou aura convaincu tout le monde? Probablement pas, car il n'a pas fait achic-achic-achic et il n'y a pas eu de chenille. Mais bon, t'en fais pas trop, François. Le gouvernement, c'est comme les Français à Roland-Garros. Plus personne n'en attend rien depuis longtemps.
C'était Harold Barbet que vous retrouvez les vendredis dans Zoom Zoom Zen et qui m'accompagne cet après-midi. Harold, t'es un humoriste hétéroclite, métalleux, t'arrives en kilt sur la scène et puis hop, d'un coup, tu nous parles de foot et de tes enfants. Il y a quoi d'autre comme cliché que tu voudrais casser?
Sur l'humoriste hein,
ou le sur, métalleux,
l'homme. Sur l'homme bah, je dirais que le principal, moi, je parlais des sorties scolaires dans mon nouveau spectacle. Moi, j'adore accompagner les sorties scolaires et je trouve qu'il y a beaucoup plus de mères qui accompagnent les sorties scolaires que les pères et ça, c'est un peu dommage. Moi, je joue beaucoup à la poupée avec ma fille, je joue avec mes sœurs, casser tous ces. Et ça ne fait pas de moi quelqu'un de particulièrement faible ou quoi que ce soit. Donc, ça, c'est des clichés à casser, bien sûr.
Il faut savoir séparer l'homme de l'artiste. Et c'est bizarre d'ailleurs que cette indulgence s'applique seulement aux artistes. Parce qu'on ne dit pas par exemple d'un boulanger « Oui, d'accord, c'est vrai, il viole un peu des gosses dans le fournil, mais bon, il fait une baguette extraordinaire.
» On vient d'entendre Blanche Gardin qui t'a amené en tournée avec elle pendant plusieurs mois. J'imagine que ça a été hyper formateur.
Mais en fait, c'était en 2018, j'ai complètement appris le métier d'humoriste avec elle. J'ai eu, à mon sens, la meilleure professeure parce que à ce moment-là, elle était au top. C'était la numéro un. La régularité dans l'écriture. Moi, je me souviens quand on partait en tournée, je jouais à la Switch dans le train alors qu'elle, elle écrivait, elle me regardait avec des gros yeux. J'avais l'impression de me faire gronder par ma mère. Et c'est des habitudes que j'ai continué de garder, d'écrire tout le temps, de faire des exercices d'articulation avant de monter sur scène. Et elle m'a aidé à appréhender le milieu, à comprendre un peu. Les bénéfices qu'on peut en tirer et aussi toutes les sournoiseries qui peuvent être autour de tout ce qu'on vit chaque jour et je lui dois énormément.
Alors Harold, tu viens de commencer ton nouveau spectacle qui s'appelle Relax Max, mais avec ce nouveau spectacle, t'as décidé de faire un truc qui est complètement contraire à tous les autres humoristes que je reçois, c'est-à-dire que donc ton ancien spectacle Deadline était plus personnel que ce nouveau spectacle. T'en avais marre de toi-même en fait?
Bah, Le spectacle que tu mets en avant en premier, c'est celui de la présentation. Une fois que tu t'es présenté, parlons de vous maintenant. Donc c'est pour ça que j'ai voulu faire un spectacle qui racontait plus une histoire, l'histoire vraie de la perte de mon meilleur ami sur le site du Hellfest, et d'agrémenter tout ça par des petites touches d'histoires personnelles qui finalement sont racontées dans un univers métal, mais qui peuvent concerner absolument tout le monde. Et j'adore ce spectacle. Les retours sont très cool parce que les gens se reconnaissent dans n'importe quelle situation.
Mais tous les thèmes sont un peu parfois, enfin, tu parles de guerre, et notamment par exemple d'anxiété. L'anxiété, quel impact ça a sur ton quotidien et sur ton écriture?
Eh bah, ben, ça fait une heure qu'on parle ensemble. T'as pu t'en rendre compte? Ouais, non, je suis très anxieux. Alors ça va paraître un peu bateau de dire ça, mais c'est vrai que moi, le fait d'écrire tout le temps, c'est un peu comme la pancine de Dumbledore dans Harry Potter. Ça me permet de pouvoir sortir mes pensées de ma tête et finalement de faire ce spectacle-là sur l'anxiété. Je peux pas dire que ça a été une thérapie, mais ça a eu un effet cathartique dans le sens où en parler, ça me fait du bien. Et puis j'ai aucun problème à mettre à plat le fait que je sois mélancolique,
pessimiste un peu parfois aussi.
Totalement pessimiste. Totalement pessimiste. C'est mais j'essaye d'aborder ça comme si c'était une qualité maintenant, parce que je me dis si tu envisages continuellement le pire. Alors pour ton moral, c'est pas super, mais tu es rarement déçu, par contre. Donc ça, c'est
vrai,
plutôt
c'est
cool.
Mais c'est quand même fou, parce que c'est quand même un métier où l'espoir est tout le temps présent. Et pourtant, toi, bah, on a l'impression que ça te retient un peu, finalement, d'y croire.
Ouais, bah ça, oui, c'est vrai. Pourtant, heureusement, j'ai des gens qui me soutiennent, notamment mon épouse, que j'ai avec moi depuis très 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 longtemps, même mes amis, mes parents. Mais c'est vrai que mon entourage y croit peut-être plus que moi. Donc, c'est un petit peu problématique. Mais en même temps, je pense que quelque part, ça me permet d'avancer. C'est une espèce de peut-être de protection pour pas trop m'enflammer et rester les pieds sur terre. Mais ça, c'est les pompes funèbres qui m'ont appris à rester les pieds sur terre.
Oui, c'est vrai que tu as fait ça pendant assez longtemps. Tu disais que tu avais enterré récupéré 178...
188.
188 personnes.
Ouais, pas le,
c'est que ça monte, en fait.
J'ai raté les 200. Mais... Non mais à part, enfin moi je trouve que c'est, ça devrait être le service militaire de la vie. Les pompes funèbres, on devrait tous y aller un petit peu. Comme ça, tu appréhendes la vie différemment. Tu finis par comprendre que bah peu importe ce que tu fais, quelle est la vie que tu mènes, on finit tous au même endroit. Et moi je relativise beaucoup de choses depuis.
Mais justement, peut-être que c'est pour ça que dans ton spectacle tu dis qu'il y a de la joie à être triste. Mmh. Bon, peut-être qu'on a besoin de joie en ce moment. Tu peux nous expliquer comment on peut trouver ce truc-là, de la joie dans la tristesse ?
Revendiquer la joie d'être triste, eh ben, c'est ne pas faire semblant, tout simplement. Moi, alors évidemment, le métier qu'on fait, on a forcément cette obligation d'être très présent sur les réseaux sociaux. On a beau dire aux gens, ne croyez pas à tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, les sourires, tout ça, c'est très très fake. Et je prends l'exemple des photos de famille en 1920, où personne ne souriait. Il n'y avait pas besoin de se forcer, et il y avait quand même cette joie, mais on était quand même triste. Et j'aime cette idée de se dire que tu peux être triste et que c'est une émotion tout aussi valable que celle que le bonheur.
Tu peux me parler d'un spectacle ou d'un film qui a changé ta vie ?
Qui a changé ma vie ?
En tout cas, qui t'a créé du bonheur.
Qui m'a créé du bonheur. Alors, je prends tout. C'est pas une comédie pour le coup, mais c'est le film Easy Rider de Dennis Hopper.
D'accord. Que je n'ai pas vu, évidemment.
Ouais, c'est vraiment un film incroyable. Caméra d'or en 1969 au Festival de Cannes. C'est un film qui a été fait sans budget. Ils ont écrit le scénario en faisant le film. Et ça raconte l'histoire de deux bikers qui décident de traverser les États-Unis en cachant de la marijuana dans le réservoir de leur moto. Et c'est une ode à la liberté. Que ça soit dans l'histoire que raconte le film, mais aussi la manière dont ils ont fait le film, parce qu'ils n'en avaient rien à péter. C'était que des tournages en extérieur, lumière naturelle. Et le film est incroyable. C'est le film que j'ai soutenu quand j'ai fait ma licence de cinéma.
Parce que c'est drôle, parce que je m'attendais à ce que tu me cites une comédie, comme tu as même écrit sur les films de comédie, tout ça, et que tu es un zinzin de comédie, on peut le dire. Je m'attendais vraiment à ce que tu me dises. Je sais pas, Ace Ventura, j'en sais rien.
Ace Ventura ou Dumb and Dumber.
Ouais.
Alors, j'ai aussi. Moi, j'ai ma grande passion, ça, c'est l'humour très potache de Leslie Nielsen, tous les yatils en flic pour sauver la reine, sauver le président, Hollywood. Je me marre encore aujourd'hui, hein. Je suis très prout-prout, moi. Tu me mets des
mais on l'est tous,
South Park, je suis un énorme fan de South Park.
Bah, Tristan Lopin, lui, c'est un film qui lui a fait changer sa vision de la vie. Le cinéma de Tristan Lopin, c'était jeudi sur France Inter.
Je tiens à m'excuser auprès de toutes les femmes desquelles je me suis moqué parce qu'elles lisaient 50 nuances de Grey il y a quelques années pour donner un petit frisson érotique au milieu des odeurs de transpiration sur la ligne 13. Et auprès de toutes les gamines qui ont flingué les housses des sièges de salles de ciné submergées par l'émotion devant la saga Twilight ce week-end. J'ai moi-même fait l'expérience du plaisir charnel par procuration en allant voir Baby Girl, le nouveau film avec Nicole Kidman, dans lequel elle joue une PDG surpuissante qui se soumet à son stagiaire. Faut savoir que le stagiaire dans le film interprété par Harris Dickinson, il te met un de ses coups de chaud. Donc avant de continuer ma chronique, j'aimerais déjà savoir qui est en charge du recrutement des stagiaires chez Radio France. Parce que clairement, je pense qu'on est sur un manque d'investissement. On n'en peut plus des stagiaires de troisième boutonneux qui ne savent même pas qui on est. Aucun respect, les gamins. Franchement, s'il y a que ça l'année prochaine, on les envoie chez Morandini, vous allez voir, c'est pas la même limonade. Rien à voir avec le stagiaire de Nicole. Ma voisine de siège respirait si fort. À un moment, je crois qu'elle m'a regardé pour me demander si c'était OK qu'elle commence à se masturber à côté de moi. Et j'ai trouvé ça vraiment chic de ta part, Lisa. Parce que quand on est à la radio, souvent, tu le fais sans demander d'autorisation. Donc là, ça fait plaisir.
Les caméras.
Il y a une scène dans le film, ils sont à un after work avec des collègues. Le stagiaire commande un verre de lait à Nicole, qu'elle boit en le regardant dans les yeux. Du coup, moi, je rentre chez moi, je sers un verre de lait à mon mec, je lui tends de manière un peu autoritaire en lui disant « Bois, tiens !» Et là, il me répond « Pardon, j'ai pas entendu. » Et je lui répète un peu plus fort « Bois, petite traînée. » Alors, je sais pas si c'est l'utilisation de l'impératif ou le petite traînée, mais il m'a regardé en mode « Mais t'es un ouf, quoi, tu me parles comme ça, tu veux que je te monte en l'air ?» Moi, je voulais juste créer un moment un peu sexy, juste j'avais oublié que chez mon mec sommeillait une candidate de télé-réalité. Je le calme, je lui explique la situation et là il me balance. De toute façon, je suis intolérant au lactose. Après, je vais avoir des gaz. Je vous jure, on n'est pas aidé quoi. Dans le film, Nicole, elle se pose pas la question de savoir si c'est du lait végétal ou pas. Elle obéit. Mais avec moi, ça ne marche pas. J'aimerais tellement être un peu craint parfois, avoir du pouvoir, mais je ne suis le maître de personne. En revanche, je suis grave la pute de Nikos Aliagas. Samedi dernier, finale de la Starmac. 8 fois, j'ai voté pour Ebony. Je lui ai porté l'œil, la pauvre. Non, je sais pas. pourquoi. J'ai l'impression que je ne dégage pas cette énergie de mec un peu dominant. Je suis rentrée chez moi l'autre soir un peu tard. Il y a une fille qui entre dans l'immeuble juste avant moi. Mais elle m'avait pas vue. Donc alors qu'elle ferme la porte derrière elle, moi je pousse pour entrer. Elle se met à hurler, se jette sur l'interrupteur, me voit et là elle me dit « Ah mais vous êtes Tristan Lopin, pardon, je suis désolée, j'ai cru qu'un mec me suivait. » Je lui dis « Bah oui, techniquement jusque-là, je suis un homme, je suis derrière vous, donc bon, ça s'entend quoi. » Et là elle m'achève en me balançant « Non mais j'ai cru que c'était une menace, alors que vous, bon, alors que moi, bon quoi. » Comme si c'était évident que je pouvais pas représenter une quelconque forme de danger. C'est quoi ces préjugés? Alors quoi, parce qu'on n'est pas une armoire à glace qui crache par terre, siffle les meufs dans la rue et mange sa viande bien saignante. On est une menace pour personne, c'est n'importe quoi. Mettez-moi en face de quelqu'un qui critique ouvertement Britney Spears, Isabelle Huppert ou Kate Winslet, vous allez voir, je préfère vous le dire, ça va chier les bulles.
Il est dangereux, Tristan Lopin, chaque jeudi à 11h25 dans la bande originale. Dans quelques instants, on se demandera de quoi on riait il y a 30 ans, mais n'attendons pas pour savoir sur quoi on dansait. On écoute Dominique A et Françoise Breut, le 22 Bar sur France Inter.
Au 22 Bar, on dansait, on dansait. C'était plutôt inhabituel. Alors bien sûr j'en profitais. De bras en bras les gens passaient. Ça n'était qu'un temps court pour se relancer et puis se remettre à danser. Parfois j'entendais quelqu'un m'appeler. Personne quand je me au 22 Bar ce soir-là, on dansait. Je ne sais plus pourquoi c'était, non, pas plus que les gens qui dansaient. Si par hasard ils s'arrêtaient et ils sentaient de vieux décors se balancer, plusieurs fois manquer de tomber. Et du coup, de bras en bras, il repassait. Alors, on se laissait aller au 22 Bar ce soir-là. Parfois, j'entendais quelqu'un m'appeler. Personne quand je me
je le voyais, je l'appelais puis me cachais. Après tout ce qu'il m'avait fait, j'attendais le bon moment pour l'aborder et sentir son sang se glacer.
C'était Dominique A et Françoise Breut, le 22 Bar, une chanson sortie en 1995, précisément l'année de cette chronique qui dormait dans le grenier de France Inter.
L'humour, c'était mieux avant.
Le fou du roi.
Si vous saviez comme il est difficile, entouré de ces olibrius, de garder le cap.
Comment ça c'est interdit de construire un KFC sur la barrière de corail?
C'est une honte.
C'est un scandale.
Dans l'humour d'Inter l'Hebdo, nous passons souvent des chroniques issues de Rien à cirer, l'émission phare des années 90 de France Inter, animée bien sûr par le mythique Laurent Ruquier. Une des raisons pour lesquelles moi personnellement j'aimais bien cette émission, c'est que c'était l'une des premières à faire la part belle aux femmes humoristes. Anne Roumanoff, Sophie Forte, Virginie Lemoine. Continuons à les redécouvrir avec ce sketch d'Isabelle Mergault qui a rejoint la bande pour sa dernière saison en 1995. Ce jour-là, l'invité, c'était Florent Pagny.
Moi, j'ai connu un homme. Il se faisait appeler Michel, mais en fait, son vrai nom, c'était Michael. Il était américain et il préférait qu'on l'appelle Michel. Ça lui donnait un côté français. Mais moi, ça ne m'arrangeait pas parce que Michel, ce n'est pas facile à dire. On l'a mal en bouche. Bref, qu'une fille soit un canon ou un boudin, Michel, il s'en foutait. Il s'en foutait. Il s'en foutait complètement. L'important pour lui, c'était qu'elle soit belle à l'intérieur. Il était chirurgien. C'est lui qui m'a opéré de l'appendicite. Le jour de l'opération, il m'a ouvert. Et alors là, le peu d'intérieur qu'il voyait de moi, il est tombé fou amoureux, un coup de foudre. Il n'avait jamais vu une fille qui était aussi belle de l'intérieur que moi. Jamais. Il m'a même ouvert beaucoup plus que prévu, tellement il n'en revenait pas de tant de beauté. J'avoue que c'est assez flatteur. Bon, d'accord, pour une cicatrice d'appendicite, 75 cm, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, mais bon, l'hiver, avec une écharpe autour du cou, ça se voit pratiquement pas. Il m'a dit que j'avais un estomac bourré de charme. Qu'est-ce qu'il me disait aussi? Attendez. Ah oui, il me disait... Oh, la pâleur de tes poumons n'ont d'égal que la longueur de ton côlon.
C'est élégant.
C'est attrayant.
Ça embouche un coin, hein. Il adorait m'emmener dîner. Moi, au début, je me pomponnais, je me maquillais. Il y a même des fois, j'étais coiffée. Mais bon, j'ai très vite arrêté. C'était pas la peine, il me regardait pas. On était là au restaurant et tout de suite, dès le début du repas, il me collait son oreille dans le dos et il me disait, excité, « Vas-y, mange !» Et alors là, il entendait tout mon système digestif. Il avait l'impression... Il avait l'impression d'y être, qui me disait, ça le rendait fou d'amour. Il en bavait. Oui, ça c'était un peu gênant. L'étape d'à côté, ça leur coupait l'appétit. Un jour, il m'a offert une broche. Très belle. Le problème, il n'était pas là.
Attends, une broche ou une brosse?
Une broche. Je l'ai portée 6 mois dans le fémur. Et puis... Bah oui, il était chirurgien, faut suivre. Et puis, ça lui plaisait pas, il arrêtait pas de la changer de place, le tibia, la rotule. Moi, ça me fatiguait, toutes ces opérations. Et c'est là que notre relation a commencé à dégénérer. Je l'ai quittée. Maintenant, je reste tranquille à la maison avec mon chien. Pour elle, oui, c'est une chienne. Pour elle, que le plus important, c'est que je la promène, que je lui donne à manger, que je la laisse dormir. Que je sois belle ou moche, de l'extérieur ou de l'intérieur, elle s'en fout complètement. Et ça, c'est très, très reposant. Et mine de rien, c'est la fin de mon papier.
C'était Isabelle Mergault en 1995 dans Rien à cirer. T'en as pensé quoi, Harold ?
Moi, les blagues digestives, ça me fait toujours rire. Tu mets un bruit de prout, je rigole. Non, mais c'était. Tu sais que tu peux encore le faire maintenant, en fait. C'est toujours d'actualité, cette chronique.
Toi, d'ailleurs, Laurent Ruquier aussi t'a donné ta chance.
Ouais. Ouais, à l'époque à la radio, dans les émissions aussi qu'il a fait à la télé, il m'a toujours invité, donc c'est cool.
Tu t'es pas impressionné ?
Si, parce que lui, pour le coup, il dégage un vrai truc de... un peu une légende de la télévision française, quand tu sais tous les humoristes qu'il a fait sortir, et qu'à un moment il pointe le doigt sur toi, t'es qui ça, moi, vraiment ? Donc, non, ouais, c'était très chouette.
La prochaine chronique qu'on va écouter, c'est pas moi qui vais vous en parler, mais mon stagiaire de 3e. Je le laisse vous présenter son coup de cœur humour de la semaine et spoiler, c'est pas moi.
Salut, je m'appelle Louis, je suis en 3e au collège Anatole Le Braz à Saint-Brieuc. Je suis en stage à France Inter et grâce à ça, j'ai pu assister à la chronique de Camilla Vabre. J'ai adoré son sketch parce qu'elle joue un personnage. Elle change sa voix, elle est déguisée avec une perruque blonde et ça fait trop rire. Alors sortez vos petits bouts de pain car ça va envoyer du pâté. On écoute mon coup de cœur, Camilla Vabre dans le rôle de Brittany McMurphy, interrogée par Leïla Kadour Boudadi.
Hi, bonjour Leïla.
Donald Trump
Kadour.
Oui, donc
Boudadi.
Donald.
Leïla Kadour Boudadi. C'est comme ça qu'on prononce?
Oui, c'est tout à fait ça. Right. Vous parlez très bien français.
Merci, vous aussi.
Okay. Oui, mais Donald Trump a nommé comme ambassadeur en France Charles Kushner, le père de son gendre, Jared Kushner. Est-ce que vous comprenez les accusations de népotisme?
Oh non, pas du tout.
Vous les réfutez donc complètement?
Oh non, je veux dire, qu'est-ce que c'est népotisme?
Alors c'est le fait de favoriser les membres de sa famille.
Oh Oh oui, oui, exactement, c'est ça. You know, Donald, il est très généreux. D'ailleurs, vous connaissez son fille Tiffany?
Oui.
Il veut lui donner le Japon.
Ah, l'ambassadeur.
Non, 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 le pays. Il veut lui donner le pays du Japon. Elle aime beaucoup le riz.
Ok, d'accord. Alors, comme ça a été récemment beaucoup commenté, Donald Trump avait annoncé pendant sa campagne vouloir racheter le Groenland.
Oui, c'est très important pour les États-Unis.
Donald Trump parle même d'un enjeu géostratégique.
Oui, parce que c'est là qu'il vit le Père Noël.
C'est-à-dire le Père Noël.
Well, le Père Noël, you know, ce vieil homme, ce vieux monsieur islamiste qui importe les jouets chinois aux États-Unis sans payer les frais de douane. I mean, unacceptable.
Ok, donc ça n'a rien à voir avec les gisements de métaux, les nouvelles routes maritimes vers l'Asie. Ok, bon. Donc, comme je... comme je vous le disais, vous êtes la nouvelle attachée culturelle à l'ambassade des États-Unis. Moi, je dois vous avouer que j'ai eu du mal à trouver des informations sur votre parcours. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus sur vous?
Of course, bien sûr. Donc, moi, je m'appelle Brittany McMurphy, j'ai 1m75 et je suis Sagittaire.
En fait, je voulais dire sur votre expérience professionnelle.
Oui, je viens de dire.
D'accord. Bon, alors on va revenir plutôt à la France. Quel est votre rapport à notre pays?
Oh oui, moi j'adore la France. J'aime beaucoup la France. Vraiment, il est mon pays d'Europe préféré après l'Italie et Westeros.
D'accord, donc c'est un pays que vous connaissez bien.
Si je connais bien la France, laisse-moi rire. J'ai vu toutes les saisons de Emily in Paris. C'est pourquoi je peux dire, moi, je aime vraiment toute la France, depuis le Tour Eiffel jusqu'à l'avenue Montaigne.
Et vous avez déjà pu rencontrer Emmanuel Macron?
Non, mais je le connais bien aussi.
Ah oui?
Oui, of course. Il est le mari de Brigitte dans la saison 4.
Bien entendu. Mais je voulais dire, en tant qu'attachée culturelle, est-ce que vous pensez qu'une collaboration est possible entre nos deux pays? Par exemple, je pense au Louvre, qui a récemment alerté les pouvoirs
j'adore,
publics.
J'adore le Louvre.
Okay. Donc, un partenariat, ça serait peut-être envisageable.
Louvre. Oh my God! I love French language. Oh my God, so beautiful.
Yeah. Ok. Donc, dernière question. Donald Trump avait déplacé l'ambassade d'Israël de Tel Aviv à Jérusalem. Envisage-t-il aussi de déplacer l'ambassade parisienne?
Oui, mais ne vous en faites pas. Nous restons à Paris, all right? Nous allons juste déménager sur l'autre côté de la Seine, côté rive gauche, you know, en face de le Trocadéro.
Oui, bah, c'est laquelle? La Tour Eiffel?
Oui.
Très bien, mais merci beaucoup et bienvenue en France, Brittany.
Merci, vous aussi, Leila Kadou.
C'était le coup de cœur de Louis, mon stagiaire de 3e. Alors tu sais ce qui est bat, Louis, c'est que tu peux retrouver Camille Lavabre chaque vendredi à 11h50 dans la bande originale. Ça va, bat, c'est un mot que vous dites encore, les jeunes?
Non, vraiment pas, Marine.
C'est un truc de vieux?
Oui, c'est un truc de vieux.
Désolé. Eh bien écoute, si ça ne te dérange pas, tous les boomers qui écoutent France Inter et moi-même, allons danser un Madison sur la chanson de jeunes qui arrive. C'est Sisa, BMF sur France Inter. Et 5, et 6, et 5, 6, 7, 8...
I'm not the one.
SZA à l'instant sur France Inter.
L'humour d'Inter, l'hebdo, Marine Baousson.
Mercredi, la bande originale a reçu Laure Calamy et sa metteuse en scène Léna Brébant pour la pièce Podom. Et incroyable, Old Laf est leur plus grand fan.
Je suis fan de Laure Calamy. Laure Calamy, c'est la sœur d'Alexandra et d'Audrey Lamy. Je crois qu'elle bosse maintenant pour des prods américaines. C'est elle qui faisait Antoinette dans le film Seven. Je suis fan de Léna Brébant. Comme Jeanne d'Arc adolescente, vous aidiez Orléans. Vous avez fait des mises en scène de malade. Enfin, je veux dire que vous avez même joué dans des EHPAD. Et vous êtes là ensemble pour la pièce Podom. C'est un habit magique pour devenir un homme. Bruno Pecky rêverait d'en avoir un, je pense. Votre pièce est surtout un hommage aux Hauts-de-France. Oh. Cette pièce avec Laure Calamy. Cette pièce n'est pas née d'aujourd'hui. Elle vient d'aussi loin que je viens, entre Beauvais et Saint-Quentin. C'est la région des gogoles. Je plaisante, on peut plus lire ça. Et c'est dur pour les gogoles. C'est juste là-bas, on dit au pan. Podom, 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 ça veut dire pas d'avant Picardie. Podom, 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 édite plus en forme version pour les ch'tis. Podom, podom, podom,
mon cousin c'est mon frère, c'est Jackie.
Rappelons qu'on podon, c'est le pire dans l'horreur. Un père veut sa fille mineure. Je suis fan, mais si c'est Laure Calamy, est-ce que c'est Léna qui a la croûte aussi? Merci, vous êtes nos invités, on vous fera pas de mal. Bienvenue à vous,
la bande originale.
Podom, podom, podom.
C'est fini, Mélo.
C'était Old Laf qui déclare son amour aux invités de la bande originale chaque jour à 11h05, accompagné par Mélodie Fontaine dans le rôle de La Voix du Nord et Maxime Perrin à l'accordéon. Je suis toujours avec le chroniqueur de Zoom Zoom Zen, Harold Barbet. Harold, pour nourrir tes chroniques, est-ce que tu suis beaucoup l'actualité ?
À une époque, je la suivais beaucoup. Maintenant, je suis les gros titres et j'essaye de pas trop rentrer dans les détails parce que je trouve que c'est terriblement anxiogène. Et là, je rebondis sur tout ce qu'on a dit avant.
C'est extraordinaire. Mais tu boucles tout le temps. Évidemment, c'est un vrai pro. C'est très beau. Bon, bah, en tout cas, j'espère que les gros titres vont t'aider pour cette petite revue de presse. Lue sur Le Monde, Bernard Arnault critique le projet de surtaxe des entreprises françaises. Le gouvernement dit, ouvrez les guillemets, comprendre sa colère, mais justifie la mesure. Voilà, donc désormais, notre gouvernement fait de l'éducation positive avec ses milliardaires. Harold, toi, tu as des enfants, je suis certaine que tu t'y connais en pédagogie. Que faudrait-il faire comprendre d'autres à Bernard Arnault et comment s'y prendre ?
Eh bah, je pense que déjà, je l'appellerais Narbé. Je dirais, écoute, Narbé, je comprends que tu aimes tes milliards. À ta place, j'aimerais aussi tes milliards. Mais d'ailleurs, nous aimons tous beaucoup tes milliards.
Bien sûr.
Donc, il faut partager, et puis bon, c'est pas un petit peu de tes milliards qui va t'obliger à rouler en Dacia Duster. Je pense que t'as encore une grosse marge.
J'aimerais trop voir Bernard Arnault en Dacia Duster. Lu sur Slate, le second plus haut sommet de Nouvelle-Zélande a désormais les mêmes droits qu'une personne morale. Et un des trucs que font les personnes morales, c'est quand même de se plaindre. Comment, selon toi, se plaindrait une montagne ?
C'est une montagne française, on est d'accord.
Bah, déjà oui.
Pour qu'elle se plaigne. Moi je me dis, si j'étais une montagne et que je devais me plaindre, déjà t'es en hauteur, tu vois tous les autres, je ferais un peu la morale. Non, vous savez, je vous vois là, ce que vous faites c'est n'importe quoi. Je suis plus vieille que vous, il faut me respecter, trier vos déchets. Et si vous pouvez attendre d'être revenu à l'hôtel avant de déféquer, ça m'arrange quand même vachement quoi.
Et en parlant d'hôtel, lu sur La Provence, la construction de l'île de Léos, l'hôtel 5 étoiles imaginé par Patrick Bruel, vient de commencer. À quoi ressemblerait un hôtel imaginé par Harold Barbet ?
Alors, l'hôtel d'Harold Barbet, déjà, il est gratos.
Ah.
Tu as un test de gentillesse à l'entrée. Si tu es gentil, tout le monde peut rentrer.
Bien sûr.
Tu as une raclette offerte. Voilà, comme ça. Personne ne travaille, en fait. Tout le monde change sa propre chambre, tout le monde nettoie ses propres trucs avant de partir, parce que tout le monde est gentil et bien éduqué. Et avant d'aller au lit, on fait un feu d'artifice sur le toit, où ça écrit « Bonne nuit » dans le ciel, et comme ça, on réveille les gens méchants qu'on a mis dans le bâtiment en face. C'est ça, l'hôtel d'Harold. Bah,
pour moi, c'est vraiment un hôtel magnifique. Ah oui. Mais, et alors, bon, là, il va y avoir l'hôtel à Patrick qui va sortir. L'hôtel de Patrick Bruel. Ah, tu l'imagines Patoche. Comment ?
L'hôtel de Patoche. Ouais. Je pense qu'il y a des masseuses dans chaque chambre.
Oui. Ouais. Oh, bien sûr.
Bien sûr. Moi, je le vois bien. Je vois bien des portraits de Patrick dans chaque chambre. Mais un portrait différent. Et je pense même que les masseuses te font un décalco du portrait de Patrick. Et tu repars avec Patrick imprimé sur ton dos ou sur ton ventre.
Mais bien sûr. Oui. Et pour te réveiller, le réveil, il dirait juste, je pense, cassez la
Mais ouais, c'est ça. C'est moi, Patrick.
Très bien, Patrick. Trop... C'est une carrière d'imitateur qu'on vient de rater.
J'ai raté, madame.
Suis vraiment écoute, merci pour ces revues de presse, c'est merveilleux, mais je me demande quand même, on ne se ferait pas un petit bilan de ma semaine ?
Je pense que c'est nécessaire.
Moi, cette semaine, ce qui m'a marqué, c'est que j'ai plus de thunes. Wouh ! Oui, donc ça me fait un point commun avec plein de Français, mais aussi une vraie différence avec Bernard Arnault. Il y a un chauffard qui a eu la bonne idée d'exploser sa grosse bagnole dans la mienne, et puis les assurances ont dit « Bon, madame, dans la mesure où votre voiture, elle vaut 2000 euros et qu'il y a 12 000 euros de réparation, bah, ce qu'on va faire, c'est hop, à la casse !» Et moi, j'ai trouvé ça hyper injuste. Hein. C'est hyper tôt, la casse, à 38 ans. Surtout que l'accident n'était pas de ma faute. Mais en fait, non, c'est pas moi qui devais aller à la casse, c'était ma bagnole. Moi, je devais juste en racheter une nouvelle. C'est quand même particulier l'achat d'une bagnole, déjà parce que j'ai découvert que les concessionnaires d'occasion, quand tu rentres dans leur boutique, ils te montrent pas vraiment les voitures. Ils te disent « Asseyez-vous, laissez-moi consulter le stock sur Internet ». Non mais sinon, tourne la tête Jean-Marc, hein. Il est là, il est sur ton parking le stock. Hein. C'est un peu comme regarder sur Internet le temps qu'il fait. Bah, il y a la fenêtre, hein. C'est une super technique ancestrale, hein. Ça marche vraiment assez bien. Et alors quand ils disent « Je vais consulter mon stock sur l'ordinateur », moi ma théorie c'est qu'ils font comme moi. C'est qu'ils vont sur le bon coin pour regarder ce qu'ils ont, c'est-à-dire pas la voiture que tu as vue la veille sur le site. Parce que c'est dingue, ils l'ont vendue juste hier, comme par hasard.
Ah, oh,
bah ouais, dommage, merci Jean-Marc. Et alors ils te disent « Mais c'est pas grave, car figurez-vous, on en a une autre à votre prix, pile poil, mais c'est une poubelle, malheureusement, elle date de 2004, elle a 350 000 km. Mais sinon, on a exactement la voiture que vous vouliez, quasi neuve, mais à 5000 euros de plus que votre budget. Voilà. » Moi, je pense que les concessionnaires, ils me prennent pour une meuf qui achète des baraques avec la famille Kretz. Bah, vous aviez 8 millions de budget, mais on n'a rien trouvé à ce montant-là. En revanche, que pensez-vous de ce loft coquet à 12 millions ? Bah, je pense que tu te fous de ma gueule, Quentin. Hein. Et Jean-Marc, bref, je comprends les mecs aussi. C'est vrai que c'est compliqué pour eux, je les comprends. Moi, j'arrive avec ma meuf, ils sont perdus, ils savent plus à qui faire des blagues. Tu sais, ils sont là, heureusement, sur ce modèle, il y a la caméra de recul pour votre femme, vous voyez ce que je veux dire ? Par rapport au fait que les femmes... C'est... Voilà, donc comme je vous le disais, il y a une caméra de recul. Alors attention, je suis pas en train de dire que tous les concessionnaires auto sont misogynes, bien sûr. Je dis juste que quand j'appelais pour poser des questions sur des bagnoles, des questions précises, attention, hein, c'était genre « Mais elle est bien ?» Enfin, je veux dire, vous la trouvez... Enfin, elle est cool, quoi. Donc des questions techniques quand même, il me répondait « Ouais, ouais, nickel, rien à dire. » Mais quand j'ai demandé à mon père d'appeler avec exactement la même question, la voiture avait finalement, je cite, une rayure à l'arrière, des pneus à changer et une vidange à faire. C'est marrant, hein ?
Ouais,
c'est à peu près aussi marrant que la blague des caméras de recul, finalement. Bon, sinon, pour les critères, bah, moi, je cherche en Bretagne, donc bah, pas une électrique, trop risqué à cause des inondations. J'ai pas envie de faire une clo-clo. Imagine, tu t'électrocutes avec l'allume-cigare alors que tu fumes pas. Non, moi, j'y connais tellement rien que celle que j'ai finalement choisie, le vendeur, il m'a dit « Elle consomme 3 litres au 100 » et moi, j'étais là « 3 litres de 100 !» Mais c'est énorme, est-ce que je vais trouver ça ? J'ai aussi découvert le concept des frais de mise à la route. Je sais pas si tu connais ça.
Ah, pas du tout.
Ah, bah alors, c'est, en gros, ils nettoient ta bagnole pour 300 euros avant que tu partes avec. Et moi, je pense que c'est du vent. En fait, que ça sert à rien, mais ça sert juste à ce que le mec puisse te dire « Allez !» Petit geste commercial, je vous l'enlève. Et ça, je le sais, parce que moi... ouais, non, je les ai payés les frais de mise à la route. En gros, c'est moi qui ai fait le petit geste commercial. Je lui ai dit, allez, je vous les laisse, c'est 300 balles. Oui, parce que moi et la négo, c'est un petit peu comme bah, les manœuvres un peu compliquées. Voilà. C'est pas mon créneau. Mon créneau par rapport
à... Ah oui,
à...
Et... joli, joli.
Ouais, moi aussi, je fais des blagues de concessionnaire. La loose. Rires. C'était votre émission préférée, l'humour d'Inter, l'hebdo, l'émission qui vous donne envie d'aller vous abonner au fil de podcast L'Humour d'Inter sur l'application Radio France. Merci Harold Barbet.
Merci Marine.
Ton spectacle Relax Max est en tournée partout en France, en février à Grenoble, Rennes, Lyon, puis au Métropole à Paris tous les mercredis soirs du 19 mars au 11 juin. Et puis surtout, on te retrouve bien sûr dans Zoom Zoom Zen.
Absolument.
Merci d'avoir été mon invité aujourd'hui.
Merci.
La semaine prochaine, je reçois Emma Beaujean et Alexis Le Rossignol, que vous connaissez de la bande originale et puis aussi de la matinale. C'était L'Humour d'Inter, l'hebdo, une émission préparée par la métalleuse Louise Tempéro, documentée par la mélomane Delphine Desbiens et puis l'antenne Ina. Lucie Le Marchand était à la réalisation et au t-shirt du Hellfest. Le hard rocker Jean-Baptiste Audibert était à la programmation musicale. Louis Denon était au stage de 3e. Et puis c'était le Zizikos, Clément Vuillet à la technique.